favorable. Et ce sont ces moments qui s'y prêtent le mieux. Et pourtant, l'un n'est pas l'autre, le renversement de l'autre. Il n'en est pas le symétrique inversé. Et quand ce ne serait que parce que, entre l'un et l'autre, du temps s'est écoulé, et pour mieux montrer qu'il n'y avait pas de symétrie entre les deux, bien que, en principe, ils reviennent au même, je disais que la différence était la même qu'entre le déjà plus et le pas encore, dont je disais que ce sont deux variétés du néant, deux façons de ne pas être, deux façons d'être absent, mais qui sont inverses l'une de l'autre, et si éloignées l'une de l'autre qu'elles n'ont presque aucun rapport entre elles. Assurément, l'étincelle qui s'éteint et l'étincelle qui s'allume ne sont qu'un seul et même instant, une seule et même étincelle, et dans le même instant, en effet, elle s'allume et s'éteint. Et pourtant, dans la mesure où on l'envisage comme s'allumant, n'est-ce pas, et il y a où elle est une apparition et non pas une disparition, dans cette mesure, l'intuition implique la nouveauté, l'inexpérience, la première fraîcheur du regard, comme celle d'une conscience qui s'éveille et qui émerge de la nuit. Et dans le deuxième cas, bien que ce soit la même étincelle et le même instant, et qu'il n'y a pas moyen, tout au moins dans sa forme, de distinguer un instant et un autre instant, puisqu'un instant n'a pas de durée, n'a pas d'épaisseur, et par conséquent pas de marque discriminatoire, diacritique, qui permette de le différencier d'un autre, il y a pourtant la manière, le moment où il intervient. Et dans le deuxième moment, il est conçu comme, au contraire, impliquant un travail qui précède, comme le résultat d'un travail. Et nous disions, je crois, dans le premier cas, il y a le pressentiment d'un savoir qui va naître, et dans le deuxième... la réminiscence immédiate, peut-être, et quelque chose qui est tourné vers le passé immédiat. Donc, c'est la même chose, et pourtant, il est les deux messages qui sont inhérents, l'un à l'avènement de la conscience, et l'autre au naufrage de la conscience, ces deux messages sont tout à fait différents. Dans le premier cas, le message est encore à venir, et au moment où il arrive comme un message nouveau, et dans le deuxième cas, il s'agit d'un message déjà venu, et non point à venir, d'un message qui est passé, qui est dans le passé immédiat, et qui en même temps est le fruit d'une expérience et d'un travail. C'est donc toujours dans l'espace, et par rapport à l'espace, que par devant, par derrière, sont symétriques et homologues. Dans le temps, ces mots n'ont pas de sens, et en tout cas, la symétrie, puisque le temps est irréversible, la symétrie ici n'a plus de sens. Et voici encore un point dans lequel apparaît mieux peut-être, d'une manière plus décisive, encore la dissymétrie de ces deux messages, leur dissemblance. Si vous le voulez, au début, le stade numéro 1, si vous voulez, celui que j'appelais l'instant de la conscience naissante, il s'agirait surtout de connaître ce que l'on est déjà. Et dans le dernier, c'est-à-dire le numéro 4, la conscience disparaissante, il s'agit de devenir soi-même ce que l'on connaît déjà. Dans le premier cas, de connaître ce que l'on est déjà. Alors, connaître ce que l'on est déjà et devenir soi-même ce que l'on connaît déjà, ça ne revient pas du tout au même, bien que les mots sont répartis dans un autre sens, mais pourtant, ce n'est pas du tout la même chose. Et la dissymétrie est ici foncière. Connaître ce que l'on est ou ce que l'on était déjà, ceci d'abord est plutôt la part de l'introspection. Tandis que devenir soi-même ce que l'on connaît déjà, d'une autre manière, par discours, c'est plutôt la part de l'intuition. Nous appellerions donc plutôt introspection, ou intuition introspective, la connaissance immédiate par laquelle il s'agit de connaître ce que déjà l'on est, si on arrive à le connaître, et plutôt intuition au sens restreint du mot, l'effort par lequel nous essayons d'être nous-mêmes, de devenir nous-mêmes ce que nous connaissions et de coïncider avec lui. Seulement, bien entendu, ça ne revient pas au même, car il est évidemment plus facile, en un sens, de connaître ce que l'on est déjà, que de devenir soi-même ce que l'on connaît. Il est plus facile, dis-je, de connaître ce que l'on est déjà, parce que pour être ce qu'on est déjà, il n'y a aucun effort à faire. Notre être est pour nous-mêmes à notre disposition entière, à tout moment. C'est donc une chose qui est à tout moment possible. L'objet de l'étude, dans l'introspection, qui est moi-même, bien qu'il ne soit pas facile de se connaître soi-même, l'objet de l'étude est toujours à ma disposition, impromptu, et me suit à tout moment. Donc, la coïncidence de l'être avec son propre être et le fait qu'à tout moment il peut s'y replonger est un fait permanent et continu. Donc ce que l'on est, on l'est déjà de toute façon à tout moment, en permanence et sans effort, et par conséquent d'une manière continue et ininterrompue, si bien que là il n'y a, au moins là, il n'y a pas d'effort à faire. Tandis que pour être soi-même ce que l'on connaît, c'est-à-dire pour devenir un autre, pour devenir cet objet qui est donné devant moi, et le connaître par science infuse, en devenant cet objet lui-même, il faut un miracle, n'est-ce pas ? Et donc, la difficulté n'est pas du même ordre dans les deux cas. Dans le premier cas, c'est une difficulté un peu acrobatique, si vous le voulez, mais non point un miracle. Et en tout cas, la chance m'est offerte à tout moment. Ce que je ne suis pas arrivé à saisir sur moi-même en cet instant, peut-être que je le saisirai à l'occasion d'un autre événement favorable. Les occasions favorables peuvent se représenter à moi. Les occasions de l'introspection renaissent à tout moment. Ce que j'ai raté maintenant, je peux le réussir demain, à l'occasion d'une autre étude, d'un autre sentiment que j'éprouve, par exemple, en raison de ce donné qui est toujours à ma disposition et qui est mon être. Tandis que dans le deuxième cas, ce qui m'est demandé est beaucoup plus difficile et quasi thaumaturgique. C'est presque un miracle, puisqu'il s'agit de devenir soi-même cet autre. Donc, l'être, en effet, qu'il s'agit cette fois de devenir, ne dépend pas, comme le connaître, de mon effort discursif, de ma réflexion, de l'attention que j'accorde à mon objet. Et il est beaucoup plus capricieux. Il s'agit de devenir un autre, c'est-à-dire d'être ce que l'on n'est pas, ou de ne plus être ce que l'on est, ce qui est par conséquent une victoire inconcevable et miraculeuse sur le principe de contradiction, et même plus que sur le principe de contradiction, sur cette forme vécue du principe d'identité que j'appelais, d'un terme schellingien, que Schelling, je le répète pour la 10e fois, applique à autre chose, la tautousie, par analogie avec la tautologie, le fait d'être soi-même, pour être, étant ce que l'on est, être ce qu'on n'est pas, c'est-à-dire, ou être un autre, ce qui revient au même, il faut une victoire sur la tautousie, c'est-à-dire quelque chose de miraculeux, une victoire sur l'unicité personnelle du apax, de l'unique que l'on est. Il est donc plus normal, en un sens, de connaître à partir de l'être, à partir de ce qu'on est déjà, et de se connaître en soi-même, ou à partir de soi, d'en connaître un autre, de connaître autre chose, dès l'instant que la connaissance est ultérieure. Tandis qu'à partir de la connaissance discursive, considérée comme un commencement, devenir un autre est de l'ordre de la métamorphose, miraculeuse, n'est-ce pas ? C'est une métamorphose que l'on me demande, ou mieux qu'une métamorphose, dans le langage que j'ai souvent employé, c'est une transsubstantiation qui m'est demandée et qui est plus miraculeuse que les métamorphoses d'Ovide, que pour Jupiter de devenir un cygne ou un brouillard ou une nuée d'or, n'est-ce pas ? Il s'agit de devenir un autre. Vous voyez que l'autre complément ou l'autre attribut, n'est-ce pas, n'a pas le même sens dans les deux cas. Quand il s'agit de connaître ou quand il s'agit d'être, n'est-ce pas, la valeur de l'autre, de l'altérité, lorsqu'on la décerne au connaître ou lorsqu'on la décerne à l'être, a une nuance tout à fait différente. Connaître l'autre, je ne dis pas que ce soit facile, mais en tout cas, c'est la vocation naturelle de la connaissance. La connaissance est faite pour connaître autre chose que soi, ou soi-même. Même considéré comme un autre, à condition que ce soi-même soit considéré comme un objet d'étude, comme un médecin qui étudie sur lui-même une maladie dont il est en même temps le patient. Et si la maladie ne fait pas trop souffrir, si la maladie ne lui enlève pas son pouvoir de réflexion, à la rigueur, il peut connaître, sans être un héros, n'est-ce pas, connaître des détails sur la marche de son propre mal. Si, par exemple, il sait que c'est un cancer, il peut l'étudier pendant un certain temps. Donc, connaître, qu'il s'agisse de soi-même ou de l'autre, c'est toujours connaître l'autre, et j'ai déjà longuement insister en rappelant Platon, et les évidences platoniciennes, qui ne sont pas simplement des préjugés, que la connaissance est toujours liée à cette hétéronti, à cette allotie, à cette autre chose. Et ce que nous disons de la connaissance, on pourrait le dire aussi de l'amour, de l'avoir, de la pensée en général, ceux qui disent aujourd'hui dans le langage phénoménologique, qui disent que la pensée est intentionnelle, qu'elle est pensée de quelque chose, veulent dire par là même, sous une autre forme, que c'est la pensée d'autre chose, n'est-ce pas ? Puisque ce « ti », ce quelque chose qui est le contenu et la matière de la pensée, qui donne à la pensée quelque chose à penser, et sur laquelle la pensée ne serait qu'une apparence, un fantôme, un simple rêve, une pensée larvaire, c'est précisément, de nouveau, autre chose. Et de la même manière, un amour qui remplit sa vocation véritable, qui est un amour digne de ce nom, est l'amour d'un autre, de quelqu'un d'autre, de la deuxième personne. Nous retrouverons ce problème quand nous parlerons de l'immédiat de l'amour, ou la deuxième personne, la femme, par exemple. Mais lorsqu'il s'agit non plus de connaître, de penser, d'avoir ou d'aimer, lorsqu'il s'agit d'être, c'est bien autre chose cette fois. Il s'agit, je le répète, d'une victoire sur le principe d'identité. Et ce miracle ne peut passer, s'accomplir que métaphoriquement et encore à la faveur du temps, pas par le devenir. On peut pas à longueur de temps devenir un autre, mais le même ne peut pas être un autre, à moins de défier les lois de la raison, de nous dire une chose renversante, vertigineuse, et qui a toutes les chances d'être un non-sens et une absurdité. Mais s'il ne peut pas l'être, il peut le devenir, tout en restant soi-même d'ailleurs. On peut devenir un autre ainsi, irrationnellement, par le ministère du temps, par les voies irrationnelles du temps. Donc, selon que l'autre est l'attribut du verbe être, devenir un autre, ou être un autre, ou que l'autre est le complément direct d'un verbe transitif, pas tel que penser l'autre n'a pas le même sens. Et bien entendu, il est naturel qu'il devienne ce complément direct des opérations transitives qu'on appelle penser, aimer, si aimer est l'opération transitive par excellence, celle qui n'a de sens et de vocation. Quand s'adressant à l'autre, l'amour de soi n'étant qu'une perversion ridicule, ou à une pure et simple absurdité, ou une figure de rhétorique. Par contre, l'autre devenu l'attribut d'une prédication ontologique, je suis un autre, défie la raison et le bon sens, et nous fait tituber. Ce qui revient à dire que l'être me rive le moi au soi-même. Puisque l'autre le fait tituber, l'idée même d'être un autre est contradictoire avec l'être lui-même, c'est donc qu'il rive le moi au soi. Tandis que, au contraire, c'est le savoir qui nous ouvre à l'autre, ou l'amour, évidemment, ou la connaissance. Mais de cela, nous aurons l'occasion de reparler. Comme vous le voyez, tout cela revient à dire que dans le deuxième cas, c'est-à-dire dans le cas de la conscience qui disparaît pour connaître l'autre, c'est-à-dire connaître l'objet, ce qui est déjà donné, ce n'est point l'être propre, mais ce qui est donné, c'est la connaissance, qui est tendue, précaire, et continuée par un effort exprès. Et ce qui nous est demandé est par conséquent une espèce de miracle, malgré tout. Le miracle d'une transsubstantiation et d'une coïncidence ontique avec l'autre. C'est ce qui explique pourquoi c'est ce miracle qui est la véritable intuition, n'est-ce pas ? L'intuition la plus difficile à expliquer et la plus instantanée de toutes, la plus douteuse, celle dont les esprits forts ont évidemment beau jeu de se moquer et dont l'existence est en effet le plus ambiguë. C'est là la véritable fracture de conscience. La fracture, c'est-à-dire l'interruption de la pensée, interruption momentanée, à la faveur de laquelle l'intuition nous est donnée à la suite et après la connaissance. Si bien que, comme vous le voyez, l'intuition qui est dans la disparition est plus frappante, elle est plus intuitive que celle qui est dans l'apparition, bien que, comme j'aurai l'occasion de le redire, aux deux stades, nous avons également les deux. Car l'intuition apparaissante au premier stade peut aussi bien disparaître, et lorsqu'elle disparaît, nous livre un autre message, et vice-versa. L'intuition disparaissante peut aussi réapparaître, la conscience peut réapparaître en nous livrant également un message. Donc là, renvoie à l'autre, et les deux choses, apparition et disparition, sont également représentées dans ces deux stades. Mais au premier, ce qui domine, c'est l'apparition, l'émergence, la sortie hors de la nuit, et dans le deuxième, c'est au contraire l'engloutissement dans la nuit. D'une part, sortir de la nuit après y être entré, et d'autre part, rentrer dans la nuit ou s'y ensevelir après l'avoir quitté. Mais quelquefois aussi, la quitter de nouveau. Si bien que cette entrevision qui est comme une étincelle, à condition cette fois dans l'étincelle de retenir, comme le mot nous y invite, l'acte de s'éteindre, plus que de s'allumer, bien que l'étincelle soit les deux, ça dépend dans quelle humeur on est, on peut considérer l'étincelle soit comme une apparition, soit comme une disparition. Mais le mot nous invite, bien que l'intuition dise le contraire, nous invite à considérer surtout la disparition. C'est donc en elle que apparaît surtout, dans cette entrevision soudaine et presque inexistante, que doit nous apparaître l'intuition. Eh bien, cette fracture, qui peut-être nous met en présence de l'immédiat, est une espèce de mort, ressemble en petit à la mort, a des rapports avec elle, avec cette différence que c'est une petite mort, et que d'autre part, c'est une petite mort dans tous les sens du mot. D'abord, ce n'est pas une mort à la rigueur, au sens strict, une mort générale, une mort de tout l'être, mais une mort partitive, donc on dirait que ce n'est pas une mort du tout, et que d'ailleurs, celui qui, ça ne doit donc pas être pris à la lettre, celui qui meurt en l'objet, pour employer des expressions un peu thérésiennes, rappellerons Sainte Thérèse, celui qui meurt en l'objet ne meurt pas tout court, n'est-ce pas, il ne meurt pas à la rigueur, puisqu'il continue d'être, mais il est en l'objet, miraculeusement, on ne sait pas comment. Il est dans l'objet, mais il continue d'être, c'est-à-dire que, bien qu'il se soit oublié lui-même, bien qu'il soit insensible à lui-même, comme dans les extases mystiques, si un médecin était là, eh bien, il verrait que le cœur continue à battre, que la pression artérielle indique un chiffre positif sur le cadran, que les échanges continuent à s'accomplir, enfin, il continue à respirer, littéralement, physiquement, biologiquement, cet être mort à l'objet continue à vivre. Il n'est donc pas mort à la rigueur, il n'est pas décédé, il n'est pas très très passé. Et pourtant, d'une certaine manière, il est mort. Donc, on dirait, c'est une façon de parler qu'il est mort, puisqu'il ne l'est pas. On est mort ou on ne l'est pas, il n'y a pas de milieu entre les deux. Seulement, c'est justement ce qui est à saisir et difficile à comprendre, c'est cette idée irrationnelle d'une mort partitive que nous appelions fracture de la pensée dans l'intuition, et qui n'est point la mort générale, ni la mort à la rigueur. Et autre part, en deuxième lieu, ce n'est pas une non plus exactement une mort, non seulement parce que ce n'est pas la mort de tout l'être, mais la mort d'une partie de l'être, donc pas du tout une mort, mais d'autre part, c'est une mort réversible, et donc pas non plus une mort, car la véritable mort est celle dont on ne revient pas. C'est une mutation qui n'advient qu'une seule fois, une bonne fois, et la première fois étant toujours la dernière, comme j'ai souvent dit l'année dernière quand je parlais de la mort. C'est que ça n'arrive qu'une fois, une seule fois, et que cette fois est toujours à la fois la première et la dernière. Et qu'on ne peut pas recommencer, comme quelqu'un qui a mal réussi sa mort, et qui dit, attendez, je vais recommencer, peut-être que je mourrai plus bellement cette fois-ci. Comme quelqu'un qui voudrait repasser un examen, pour le repasser plus brillamment. Et ça ne lui est pas permis. Ou bien il n'est pas mort du tout, ou s'il est mort, ça doit être une chose définitive et irréversible. Tandis que cette fois, il s'agit d'une mort qui n'est point létale, qui n'est point vraiment mortelle, parce que précisément, elle est irréversible. Parce qu'on peut recommencer. Parce qu'on peut s'y reprendre à plusieurs fois. Parce que la coïncidence de l'être avec l'autre, du soi avec la perdition du moi dans le soi, cette perdition qui fait que je m'oublie moi-même comme égo, et que je m'oublie en la chose, peut, à la rigueur, être recommencée presque autant de fois que je voudrais. Et à force de recommencer, peut-être que je finirai par arracher quelques bribes. Quelques bribes du mystère, quelques secrets, et même, généralement, c'est comme ça que ça se passe. On finit par connaître quelque chose intuitivement, non point à la première fois, mais à la dérobée, en lui dérobant des lambeaux de mystère, bien que chaque fois, ce soit le mystère total. Comme quelqu'un qui est très familier avec une doctrine, pour reprendre des exemples qui vous rappelleront ce que Bergson cite dans la tuition philosophique, la familiarité avec une grande doctrine du passé, mettons pour choisir un autre exemple que les deux exemples que Bergson choisissait, mettons celle de Platon, n'est-ce pas, et à force de coïncider plusieurs fois avec elle, par tangence, après l'avoir naturellement beaucoup étudiée, sans la comprendre du dedans, sans être soi-même Platon, il m'arrive d'être, enfin il peut nous arriver, d'être à chacun de nous, d'être un Platon instantané, d'être Platon lui-même, d'être à l'intérieur du dialogue du Timée, n'est-ce pas, mais pendant une fraction de seconde, mais quitte ensuite à recommencer, puisqu'en devenant Platon, pour un milliardième de seconde, ayant été le Platon d'un milliardième de seconde, je puis rebondir et m'y reprendre par des tentatives successives. Si bien que la frontière qui existe à cet égard entre moi et l'autre est une frontière perméable, comme quand on dit une frontière où il y a des échanges, une osmose. On passe et repasse dans les deux sens. Donc, rien de commun avec cette grande frontière imperméable, cette muraille de Chine plus haute que toutes les murailles humaines et qui sépare la vie de la mort. Maeterlinck parle bien poétiquement de cette membrane transparente qui sépare la vie de la mort. C'est une façon de parler. La membrane est transparente peut-être pour les poètes et par façon de dire, mais en réalité, le propre de cette membrane, si c'est bien de la mort que vous parlez, et non point de l'extase, et non point de l'intuition, de la petite mort dans l'autre, dans l'être de l'autre, cette membrane est absolument opaque. Vous ne saurez rien. Ça ne fonctionne que dans un seul sens. Le sens est métaphysiquement unique. On ne repasse pas en sens inverse. Et la frontière est donc hermétiquement fermée. Et c'est le régime de la soupape. Ben, comme je l'ai également dit dans l'année précédente, le régime de la soupape, régime bien combiné, à vrai dire, et si merveilleusement combiné, que depuis qu'il y a les hommes, depuis des milliards d'années, eh bien, les hommes meurent. Les hommes meurent par milliers, toujours dans le même sens, et personne ne sait rien. Est-il rien de plus irritant, n'est-ce pas ? Les hommes meurent à côté de vous, dans la rue, partout, par milliers, mais toujours dans le même sens, et pas un pour revenir, pas un pour nous dire quelque chose. Et même ceux qui paraissent revenir n'y sont jamais allés. Ils ne savent rien. Je dirais qu'en un sens, l'intuition est une petite solution, pour nous amuser en attendant, au problème de la mort. Cette petite mort est comme une petite solution, parce que là, bien que justement il ne s'agisse pas d'être et de non-être, on peut savoir quelque chose. C'est une petite mort qui est suivie d'une résurrection, n'est-ce pas, comme une conscience qui s'abîme dans l'être de l'autre et qui ensuite se rallume après s'être éteinte, se rallume aussitôt, en sorte qu'il y a comme des clignotements. Je dirais volontiers que la vie de la pensée ressemble à ces clignotements. Ces clignotements de la conscience apparaissante et disparaissante et qui forment l'intellection, n'est-ce pas, par opposition à l'intuition. Nous appellerions donc intuition l'acte privilégié, la fracture elle-même dans ce qu'elle a de mystérieux, et intellection, cette espèce de, qui est l'acte de comprendre, cette vie quotidienne de la pensée, cette quotidienneté de la pensée par laquelle nous allons et venons, traversons la frontière, faisons un pas, tout au moins un pas en dehors de la frontière, pour savoir ce qu'il y a de l'autre côté, si bien que l'existence de l'autre, avec laquelle il s'agit de coïncider, n'est pas absolument outre, n'est pas un autre monde. C'est qu'en effet, il ne s'agit pas de l'autre monde par rapport à tout le monde, de l'au-delà absolu, qui est au-delà de tout, au-delà de tout ici-bas, au-delà de tous les hommes, mais il s'agit de cet humble, modeste ou au-delà, qu'est l'autre, qui est à mes côtés, par exemple, quand il s'agit de comprendre une personne, de comprendre quelqu'un. Quand il s'agit de l'autre, qui est la doctrine étrangère, la pensée de l'autre, lorsqu'il s'agit de comprendre une grande doctrine du passé, par exemple. Donc, il ne s'agit pas d'un au-delà de tout ici-bas, mais il s'agit d'un au-delà limité, qui, par rapport auquel je suis moi-même un au-delà, donc d'un au-delà relatif dans lequel le caractère ultérieur, l'ultériorité, qui explique seule l'imperméabilité, l'ultériorité n'est pas absolue, mais elle est elle-même relative, et donc elle est objet de connaissance. En réalité, l'homme de l'intervalle de l'intervalle des intuitions, l'homme qui discourt et qui raisonne, l'homme qui assemble des moyens termes dans la médiation, est toujours constamment à moitié mort. Il est lui-même à demi mort. Soit que il soit par exemple pur et existant. Pur étant et inconscient. Un homme qui est sans connaître est à moitié mort. Il vit par ses organes, par ses viscères, par son cœur qui bat, par sa respiration qui s'accomplit, mais par l'esprit, il est mort. Et inversement, un homme qui connaît et qui sait sans être, en oubliant, en ne coïncidant pas avec l'être de l'autre, et étant mort à lui-même, en oubliant la vie de ses propres organes, cet être à son tour est à moitié mort. Il est donc mort parce que conscient. C'est donc le passage d'une demi-mort à une autre demi-mort qui est la vie véritable. La vie véritable, c'est le passage d'une mort à une autre, d'une petite mort à une autre petite mort, de la petite mort de l'homme existant mais non connaissant, à l'autre petite mort, complémentaire, celle de l'homme connaissant mais inexistant, inexistant pour soi-même et inexistant également en l'autre, avec lequel il ne coïncide pas et qu'il ne peut que connaître du dehors. C'est donc le passage de l'un à l'autre, le passage d'une mort à une mort, lequel s'accomplit dans l'instant, qui est la vie véritable. Et peut-être que nous ne sommes des vivants que par cet instant lui-même. Nous ne vivons véritablement que parce que nous passons perpétuellement d'une mort à une autre, d'une petite mort à une autre, car c'est l'instant seul qui est la vie révélatrice. C'est l'instant seul qui est la vie du savoir, qui est le savoir vivant, en réalité, en accolant ces deux mots qui jurent de se trouver ensemble et que accolé un grand philosophe russe disparu, Simon Frank, qui avait écrit un livre qui s'appelait « Le savoir vivant », en russe « Jivoye Zdanie », le savoir vivant dans lequel il étudiait, à côté de doctrines du passé, les poètes, comme le grand poète Tchoutchev, n'est-ce pas, puisqu'il considérait la révélation des poètes, le message des poètes, comme la vie, le savoir lui-même, le savoir véritable. Eh bien, ce savoir vivant, révélateur du mystère, est donc dans la répétition de l'acte d'intuition lui-même, qui, par intermittence, nous redonne une expérience vive de la vérité et nous empêche d'être des cadavres. La seule différence entre l'homme et le cadavre vient de ce passage d'un état cadavérique à un autre, qui est la temporalité du temps, qui est l'instant qui propulse le temps et l'intuition qui propulse la pensée et qui est cette fracture dont nous parlions. De même, en effet, que les instants propulsent le devenir, ou plus exactement encore, font devenir le devenir, font advenir l'avenir, permettent à l'altération de réussir, à la mutation d'aboutir, me font effectivement devenir un autre, et font que l'homme n'est pas comme une banquise, et encore les banquises elles-mêmes évoluent et changent dans le temps, et la glace fond, elles descendent vers le sud, enfin elles font des choses, elles les font très lentement, ne vivant que d'une vie très ralentie, mais elles-mêmes, elles évoluent, la calotte polaire, je suppose qu'elle change, d'un changement très lent. Eh bien, l'homme change beaucoup plus et beaucoup plus vite, et c'est l'instant qui explique seul, par le passage d'une demi-mort à la demi-mort inverse, c'est lui seul qui fait aboutir le temps, qui mobilise le temps et la pensée. Le passage de l'être naissant au savoir sans être, et dans lequel l'homme reprend à tout moment de l'élan pour le renouvellement, pour le recommencement de sa propre pensée. Ainsi, ce sont ces deux instants que nous comparions l'un à l'autre et qui forment l'intellection, et étant pourtant tout à fait peu, nullement homologues l'un à l'autre, nullement symétriques l'un de l'autre, qui sont peut-être les instants privilégiés au cours desquels, à l'occasion desquels, l'homme se mettrait lui-même en présence de l'immédiat. D'une part, avant le labeur, et d'autre part, après le labeur, dans l'intellection, dans l'introspection, ou dans l'intuition, ou encore dans l'intuition antécédente et dans l'intuition conséquente. Est-ce à dire maintenant que le contact avec l'immédiat, c'est l'autre problème maintenant qu'il nous faut essayer de résoudre, Est-ce à dire que ce contact avec l'immédiat soit le résultat, la récompense, le couronnement de la médiation, et en résulte de la même manière, par exemple, que l'intuition résulte du discours ou du raisonnement, que c'est pour avoir beaucoup raisonné ou beaucoup travaillé que l'homme aura une intuition, et que l'intuition intervient par conséquent comme la récompense de cet effort. On est tenté de le dire, et moi-même j'avais l'air de le dire, lorsque tout à l'heure j'ai parlé du moment privilégié entre tous de l'intuition, qui était l'intuition, la conscience qui disparaît après la connaissance, après le labeur, lorsqu'elle coïncide sur un point avec l'être de l'autre. Eh bien, se représenter les choses ainsi, c'est se fermer de nouveau la nature véritable du donné immédiat, l'immédiateté de l'immédiat. Cela représenter cette immédiateté à partir de la médiation, et comme le résultat de cette médiation, c'est se résigner à n'en pas comprendre la nature. Le travail ou le discours ou le raisonnement qui la précède en est peut-être la condition nécessaire, mais jamais la condition suffisante. Ce raisonnement en est la condition nécessaire, en ce sens qu'en général, il faut avoir beaucoup travaillé pour avoir des intuitions, et que de même, il faut être passé par le laboratoire, par le purgatoire, le laboratoire de la médiation, pour mériter l'immédiat. Et pourtant, il ne suffit pas d'être passé par ce purgatoire pour l'obtenir. Et il arrive que de longues vies se passent, de labeur et de patience, sans que l'intuition soit venue se déposer sur nous, sans qu'elle nous ait touché comme une grâce. Donc, si, d'une part, il faut en général, car on ne peut à cet égard fixer que des règles générales, si, en général, il faut avoir beaucoup travaillé pour avoir des intuitions, il ne suffit pas, tant s'en faut, d'avoir beaucoup travaillé pour en avoir. Et il arrive même qu'on ait beaucoup travaillé sans en avoir, et même, dans certains cas, qu'on en ait sans avoir du tout travaillé. Ce qui donc démentirait même ce que nous disions au début. Condition nécessaire, mais jamais suffisante. Eh bien, ce régime bizarre de la condition nécessaire, et encore pas tellement nécessaire, ni toujours nécessaire, donc pas du tout nécessaire, dans certains cas, mais en tout cas pas suffisante, c'est le régime bizarre qui relie par exemple le cerveau et la pensée, et l'excitation et la sensation, l'expression et la pensée, les signes et le sens dans l'expression. Un certain rapport se vérifie en général, mais ne se vérifie jamais dans le détail. C'est-à-dire que pour penser et pour avoir une mémoire, il faut avoir un cerveau, et en ce sens que sans cerveau, il n'y aurait pas de pensée, bien entendu, et sans cerveau, il n'y aurait pas de mémoire, et pourtant, il s'en faut de beaucoup que la pensée corresponde à la grosseur du cerveau, à sa voluminosité, que les souvenirs soient logés dans l'écorce cérébrale, ainsi que personne ne montrait. Donc, le cerveau est bien la condition générale de la pensée, mais cette condition n'est pas suffisante. On peut avoir un cerveau énorme et être un imbécile. Et les moutons ont un très gros cerveau, très, très lourd, ils sont pas plus intelligents que nous. Donc, la condition est nécessaire, c'est une condition sine qua non, mais ce n'est pas une condition suffisante. Et de la même manière, le régime de la liberté, lié à un substrat déterminé, lié à des déterminations en général, de telle manière qu'elle paraît toujours déterminée, mais jamais d'une manière particulière, ni dans le détail. Eh bien, ce même régime, qui est, comme vous le voyez, bien déroutant, c'est le rapport même du média avec l'immédiat. La médiation est nécessaire, dans certains cas, pour l'intuition, mais elle ne nous donne pas des droits à l'intuition. En ce sens que, si vous avez beaucoup raisonné, beaucoup travaillé, et que vous ne recevez pas l'intuition comme un don, vous ne pouvez pas vous pourvoir en Conseil d'État, par exemple. Vous n'avez pas de droit. Votre pourvoi sera rejeté. Même si vous avez beaucoup travaillé, votre travail ne vous donne à cet égard aucun droit. Et par conséquent, même en tenant compte de cette condition de la médiation, l'intuition garde toujours un caractère imprévu, un caractère immérité, un caractère irrégulier, capricieux, qu'on a envie d'appeler une grâce, et qui, parce qu'en effet, elle ressemble toujours à un don gratuit. On dira, si vous voulez, que c'est une injustice. Dans les concepts humains, c'est une injustice, en ce sens qu'il est juste, quand on a beaucoup travaillé, de recevoir la récompense de son travail.
comme un élève méritant, n'est-ce pas? Mais vous savez que même là, les élèves méritants sont pas toujours intelligents, et donc ne peuvent pas non plus se plaindre, et c'est pour voir un conseiller d'État, c'est pour avoir beaucoup travaillé et fait tout leur thème latin, ils n'arrivent pas à des résultats satisfaisants. Eh bien, ceci est encore plus vrai quand il s'agit de, par exemple, de l'inspiration, dont j'avais envie de parler, bien qu'il s'agisse non point du rapport de l'homme avec un donné pour le connaître, mais du rapport de l'homme avec quelque chose pour le poser. Car l'inspiration, elle, pose, est créatrice. Elle est créatrice d'œuvres poétiques ou artistiques. Donc, dans les deux cas, il s'agit bien d'un immédiat, mais dans l'intuition que nous étudions, d'un immédiat donné, qu'il s'agit de connaître dans sa vérité, et dans le deuxième, d'une chose à créer immédiatement. Or, si l'inspiration est liée au travail, et si elle est liée au travail technique, et si en effet il faut s'asseoir tous les jours à sa table de travail, tous les matins, à la même heure, pour avoir des chances d'avoir un jour l'inspiration, tout le monde, n'étant pas Paul Valéry, ne recevra pas forcément l'inspiration. Donc l'exemple même de Paul Valéry et la phrase célèbre de Valéry prouve par là même qu'il s'agit d'un don gratuit, d'un doronteon, comme dirait le Ménon, et qu'il y a entre lui et le travail qui le précède un certain rapport amphibolique, un rapport double, qui n'est jamais un rapport suffisant, un rapport de détermination univoque. Donc, l'intuition, pour revenir à elle, et la connaissance immédiate du donné, ne nous est pas due comme un salaire, pas plus que la rémunération, d'ailleurs, n'est due au mérite. Et de là, le scandale de l'homme devant ce qu'il appelle l'injustice immanente, et qui, à vrai dire, doit être un mystérieux caprice de la grâce. Les théologiens lui répondent, ça ne nous console guère d'ailleurs, que c'est un mystérieux caprice de la grâce, que c'est une injustice dans les concepts de l'homme. Faut pas lui dire que ça sera renversé dans l'autre monde, car ça ne le consolerait pas, mais il doit simplement en retenir le caractère déroutant et de ce rapport. Et je répète même qu'il peut arriver, en sens inverse, que la condition nécessaire n'étant même pas remplie, l'intuition nous soit accordée sans effort préalable et d'une manière entièrement imméritée. La raison même de ce rapport, vous pourriez la dire à ma place, tellement je l'ai indiqué souvent, ou tout au moins suggéré, ou fait prévoir, c'est que l'intuition de l'immédiat n'est pas régulièrement proportionnelle au travail qu'on a fourni, et par conséquent ne résulte pas d'une progression régulière, d'une progression scalaire. C'est dans l'espace que l'approche a un sens. Dans l'espace qu'il y a une approche continue, que par exemple l'avancement du travail correspond à sa durée. En 3 jours de besogne, on abat plus de travail qu'en 2 jours, et plus on travaille, plus on en abat. Mais lorsqu'on applique ces concepts de la besogne matérielle ou le concept de l'approche dans l'espace, lorsqu'on les applique au rapport de la médiation et de l'immédiat, il ne s'agit que d'une métaphore, car cette fois, l'intuition ne doit pas être considérée comme un total matériel, une corvée à effectuer, un certain quantum, un quantum de labeur à abattre qui est seul en cause. Et c'est pourquoi l'idée même de progrès n'a pas plus de sens lorsqu'il s'agit de l'immédiat qu'elle n'en a pour l'inspiration ou qu'elle n'en a pour l'effort moral. Parce que, comme dans la vie morale, ici, ce qui est fait n'est jamais fait. Mais reste à faire. Il arrive, vous le savez bien, que lorsque l'ascète s'est mortifié pendant 25 ans, s'est privé de déjeuner ou de dessert pendant 25 ans, eh bien, il peut très bien arriver qu'à la 25e année, ce soit un misérable pécheur, bien plus pécheur que celui qui s'est jamais privé de dessert. Supposez, par exemple, que ce grand ascète ait eu un atome de complaisance pour sa privation de dessert, qu'il ait eu un milligramme d'amour-propre, de pensée, de mérite ou de vanité, de bonne conscience, mercenaire, et ses jeûnes et ses mortifications ne vaut rien. Il ira en enfer, si tant est qu'il y ait un enfer, encore bien plus sûrement que celui qui n'a jamais jeûné. L'évangile doit dire ça d'une autre manière, mais ça revient un peu au même. Ce héros-là ira donc dans un enfer s'il y en a un. Il le mérite. Et c'est même dans l'enfer qu'on les rencontre, ces grands ascètes, ces grands jeûneurs, n'est-ce pas ? Si l'intuition était une récompense, si l'intuition, pour revenir à elle, en laissant de côté l'athlétisme moral que je n'ai indiqué que pour être plus clair, si l'intuition était la conséquence ou le résultat de l'effort discursif, de la médiation, elle serait proportionnelle à cet effort. Et on en serait d'autant plus proche qu'on aurait travaillé davantage, les mots d'autant plus, davantage, ayant leur sens de proportionnalité, comme il arrive que pour le but d'une course ou le but d'une promenade, à mesure que le train roule et que le temps s'écoule, la gare de destination se rapproche. À quelques moments que je tire ma montre, si tant est que le train ne revienne pas en arrière, à quelques moments que je tire ma montre, je n'en ai jamais été plus près. Plus je m'élève, plus, pour parler le langage des alpinistes et des dialecticiens, plus je m'élève, plus la cime se rapproche au fur et à mesure que je m'élève, à moins que je m'y transporte d'un seul coup par un miracle d'ubiquité, sans avoir à gravir la pente. Plus on travaille et plus on est prêt. Mais d'un autre côté, lorsqu'il s'agit de l'intuition, peut-on dire que plus on travaille, plus on est prêt? Non, on ne peut pas le dire. La vérité, c'est qu'on ne peut pas non plus dire le contraire. Si bien qu'on ne peut rien dire du tout. On ne peut dire ni l'un ni l'autre. On ne peut dire ni que plus je travaille, plus j'en suis prêt, parce qu'en effet, je peux travailler toute ma vie et n'avoir jamais l'intuition ni l'inspiration m'être creusé la cervelle devant la doctrine de Platon sans avoir avancé d'un atome dans l'identification avec Platon. Sans avoir réussi par l'extase, cette extase qu'en définitive est la compréhension de Platon, l'extase qui consiste à me platoniser, à me platonifier, n'est-ce pas, pas à platoniser comme des érudits, mais à me platonifier, et par conséquent, il n'est pas vrai que plus j'ai travaillé Platon, plus je l'ai compris. Mais le contraire n'est pas vrai non plus, n'est-ce pas, bien entendu. Et si bien que, en définitive, comme je l'indiquais, rien ne peut être dit. En définitive, d'ailleurs, s'il fallait dire quelque chose, et moi qui suis professeur, j'aurais mauvais esprit à ne pas le dire. Il vaut mieux travailler que ne pas travailler. Il vaut mieux travailler que dormir. Donc ne comprenez pas ce que je dis dans le sens favorable à la sieste. Il vaut mieux avoir travaillé, étant entendu que ça ne suffit pas et que cette condition n'est jamais suffisante. La raison, pour donner la raison de la raison, j'ai donné la première raison, si vous voulez, qui est le caractère métaphorique d'un progrès scalaire quand il s'agit de la médiation. L'immédiat n'est pas le résultat d'un progrès scalaire. Et la raison de cette raison, à son tour, c'est que le donné immédiat ne se livre pas par morceaux. Il ne se livre jamais par morceaux à la façon dont les souris grignotent le fromage. Ce n'est pas un grignotement. Pour reprendre des expressions bergsoniennes, Bergson parle souvent de l'intelligence qui ronge le réel, à la façon des rongeurs, et des souris, précisément. C'est pour les tâcherons de la tâche mécanique. C'est pour les souris de la besogne du quotidienne, par exemple pour les souris de l'érudition, les souris de l'histoire de la philosophie, c'est pour elles que la besogne déjà faite est prélevée sur une tâche à faire, et que ce qui reste à faire représente ce qui n'a pas été encore rongé, comme dans le morceau de fromage. Mais il s'agit cette fois d'un quelque chose qui est un tout, et qui ne peut pas être loti, qui ne peut pas être débité par tranches, qui ne peut pas être grignoté peu à peu, et pour lequel, par conséquent, la patiente médiation n'a pas de rapport avec l'immédiat. Il y a, entre la médiation et l'immédiat, à cet égard, une différence de nature, comme entre le discursif et l'intuitif. Et l'on efface cette différence, on la fait disparaître, lorsqu'on veut qu'il s'agisse d'un simple rongement ou d'un grignotement. On fait donc disparaître la spécificité de l'intuition, qui est non seulement d'être un acte instantané, mais encore un acte global, total, intégral, c'est-à-dire une vue simple et synthétique, ou comme dit saint François de Sales, parlant du rapport avec Dieu, mais il s'agit presque de l'intuition, dans le passage où il le dit, d'une simple vue de l'entendement, d'une vue simple et globale de l'entendement. Quelque chose comme cette intuition de Dieu dont parle saint François de Sales, ou encore quelque chose comme le schéma dynamique de Bergson, qui est à tout moment total et d'une seule venue, qui est à tout moment total et global. Par conséquent, Si le progrès scalaire n'a pas ici de sens, c'est parce que le donné immédiat est global, comme l'est d'ailleurs la vertu selon les stoïciens, qui exagérait un peu, mais qui avait pourtant à cet égard une vue profonde de la réalité spirituelle et un peu décourageante pour le progrès moral. La vertu, la sagesse, disait-il, est toujours donnée d'emblée. D'emblée tout entière. Et elle est ou elle n'est pas. À proprement parler, on ne fait pas de progrès dans la sagesse, mais on en fait dans le comportement, on en fait dans les manières de vivre, de sentir, mais non point dans la sagesse proprement dite, qui est donnée parfaite d'entrée de jeu, qui est donnée parfaite et n'engraisse pas de jour en jour par un progrès moral, ne gonfle pas comme gonflent les intérêts d'un capital, ne gonfle pas comme les économies d'un rentier, par exemple, mais reste toujours complète lorsqu'elle advient. Lorsqu'elle advient, ça apparaît concrète, complète, et se suffit à elle-même. Donc, comme cette sagesse, selon les stoïciens, l'intuition ne se débite pas en fractions. Tout ou rien est sa loi. Tout ou rien, bien plus que plus ou moins, ou de plus en plus. Bien plus ou de plus en plus valent pour les corvées et les besognes matérielles, mais tout ou rien vaut pour l'intuition, pour l'inspiration et aussi peut-être pour la sagesse. Et en effet, s'il y avait grignotement, usure, en quelque sorte, et si l'immédiat était au terme de la médiation, lorsqu'on a patiemment grignoté le donné, il s'en suivrait que le donné serait donné intuitivement lorsque toutes ces déterminations seraient épuisées. Et il serait donné par usure et par consomption, comme la mort est donnée, selon les théoriciens, de la mortification, par quelqu'un qui se mortifie peu à peu. À force de se mortifier tous les jours et de jour en jour, eh bien, on finit par mourir. La chandelle finit par s'éteindre. Finit par s'éteindre peu à peu. C'est de cette manière que, peu à peu, nous arriverions à consommer le donné. La mort serait, en ce cas, simplement la cessation d'être. Un événement purement négatif, qui ne ferait que sanctionner, que consacrer l'extinction définitive de la flamme de la vie. Or, déjà, la mort apparaît comme bien autre chose. La mort n'est pas simplement l'extinction et la consomption d'un être qui peu à peu s'éteint, mais elle est un événement positif. De la même manière, l'immédiat et la présence de l'immédiat est un événement positif et n'intervient pas simplement à la fin lorsque nous avons complètement épuisé le donné. Donc, l'immédiat n'est pas le dernier terme d'une consomption progressive, la dernière goutte au fond du calice, le dernier milligramme d'être, en quelque sorte, le dernier milligramme d'inconnu, une fois qu'il est entièrement résorbé, et qui intervient donc quand il n'y a plus rien à connaître. Donc, de même que la mort n'est pas simplement la fin de la vie. Pourtant, M. de la Palice disait quelque chose comme ça, que la mort est simplement la cessation de l'être qui est taillée sur le rebord du non-être. La mort n'est pas la fin de la vie, mais la mort est un événement positif et un instant qui est plein de sens et qui advient comme un événement qui a son sens propre. Et de même, l'intuition de l'immédiat n'est point simplement la fin de la médiation, la consomption ou l'usure de l'être, mais elle est une gnose pleine de sens. Donc, l'intuition n'intervient pas simplement comme la limite métaphorique de cette consomption, mais elle est d'un autre genre, d'un autre ordre, d'une autre origine, d'un autre monde. Et la différence qui la sépare de la médiation est aussi grande que celle qui, selon Descartes déjà, sépare la véritable certitude, la certitude des grandes évidences, et le discours par raisonnement. Cette certitude ne résulte pas des approximations. Elle n'est pas la limite de ces approximations successives. L'approximation elle-même étant toujours régulière et maximale. Mais elle est donnée d'emblée, transparente. Descartes, vous le savez bien, découvre la plus grande certitude dès le début. Il la découvre dans l'acte même par lequel il doute. Celle du cogito, par conséquent, ne résulte pas de tâtonnements, d'approximations successives, elle ne résulte pas d'une médiation, mais elle apparaît d'un seul coup dans sa transparence la plus grande, dans sa transparence superlative. Tout l'essentiel est donc donné au début, non point comme le résultat d'une induction ou d'une inférence, non point même comme la conséquence d'une démonstration apodictique et certaine, mais elle apparaît d'emblée comme une évidence à 100%. Une évidence par rapport à laquelle il n'en est pas de plus évidente, donc dans sa pureté. Elle apparaît dans sa pureté maximale. Nous dirons donc, de la même manière, que l'intuition de l'immédiat n'est point à l'extrémité de l'approximation. Elle n'est pas à l'extrême limite des approximations, elle n'est même pas une médiation peu à peu resserrée, comprimée, simplifiée. Et en fait, on voit que très souvent, l'intellectualisme réductionniste voudrait bien que l'immédiat soit une espèce de médiation comprimée au dernier degré. Une toute petite médiation. Une médiation très courte, en quelque sorte. Une médiation dans laquelle on a supprimé plusieurs termes. Par exemple, c'est une des méthodes favorites de l'intellectualisme réductionniste que de se représenter l'intuition comme un raisonnement très court, un raisonnement en quelque sorte instantané, un raisonnement rapide, ou encore comme un antimème, c'est-à-dire un raisonnement dans lequel la majeure ou la mineure, une proposition ou deux, sont sous-entendues et sont implicites. Eh bien, rien de tout cela. L'immédiat n'est pas un raisonnement réduit à la rigueur, simplifié, dans lequel des propositions seraient sous-entendues. Ce n'est pas un raisonnement elliptique, mais c'est quelque chose qui est d'un autre ordre. Il ne suffit pas d'enlever un moyen terme et puis l'autre, de supprimer un premier intermédiaire et puis un autre pour obtenir peu à peu l'immédiat. Car de cette manière-là, vous n'auriez jamais qu'une médiation progressivement comprimée, progressivement simplifiée. Je répète que l'immédiat ne résulte pas d'une usure, d'un amenuisement, d'une exténuation de la médiation, peu à peu effilée, réduite à un seul terme, mais qu'il est d'emblée d'un autre ordre. Bien plus encore, non seulement l'immédiat ne résulte pas de cette médiation effilée, mais bien souvent l'immédiat n'est point donné au terme de la médiation, souvent il est donné au commencement. Non seulement il ne la suit pas, mais très souvent, il la précède. Il la précède et même la rend possible. Est-ce que la recherche de l'immédiat serait possible si l'homme n'avait pas déjà une idée de l'immédiat? Si déjà, il n'avait pas été en sa présence? Est-ce qu'il pourrait trouver de donner par tâtonnement s'il n'avait pas une idée de se donner? Déjà, Platon nous avait donné les moyens de le comprendre. Platon savait que l'homme possède déjà, d'une certaine manière, ce qu'il recherche, puisqu'il le recherche. Et il aurait pensé, comme le Pascal du mystère de Jésus, que l'homme ne peut rechercher que parce qu'il a déjà trouvé. L'homme recherche ce qu'en un sens, il a déjà trouvé. Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais trouvé. Cette parole se trouve chez Pascal, dans le mystère de Jésus, mais on peut dire quel est le mot de l'érotique platonicienne. Pour Platon, l'homme ne chercherait pas ce quelque chose d'autre, qui est par exemple l'aimer, la chose à connaître, si d'une manière ou d'une autre, déjà il ne la connaissait. Platon disait métaphoriquement qu'il l'avait connue dans une existence antérieure et prénatale, qu'il se la rappelait. Mais d'une manière ou d'une autre, puisque l'homme, en un sens, ne recherche que ce qu'il a trouvé, et que par conséquent, la médiation n'est possible que parce que l'homme a déjà une certaine vue de l'immédiat, il s'ensuit que la médiation elle-même n'est bien souvent que la façon dont on est censé avoir trouvé. J'ai déjà trouvé, en réalité. J'ai déjà trouvé, mais je ne veux pas vous le dire, et je veux vous montrer comment il faudrait faire pour trouver. Moi qui ai déjà trouvé. Donc, la médiation et le raisonnement ne sont souvent que la façon dont on devrait avoir trouvé, mais dont on n'a pas trouvé. La façon dont on est censé avoir trouvé. C'est donc une mise en scène rétrospective, une reconstruction pédagogique, une reconstruction didactique, à l'usage des écoliers, pour leur montrer comment il faut faire, et surtout pour qu'ils ne croient pas qu'il ne faut pas travailler, pour leur montrer que, dans tous les cas, l'immédiat résulte de cette recherche et de ce travail. Remarquez que c'est ce que Bergson lui-même disait quand il parlait du schéma dynamique dans l'intellection, dans l'effort pour comprendre. La nouveauté de sa théorie consistait à montrer que ce schéma, en réalité, ne résulte pas d'un passage des signes au sens, mais au contraire d'un passage du sens au signe, et mieux encore, d'un passage du sens au sens à travers les signes. Et par conséquent, que le sens ne résulte pas d'une interprétation des signes, mais que l'interprétation des signes elle-même n'est possible que parce que j'ai déjà formé un sens, que parce que déjà, en un sens, j'ai trouvé, bien que le sens que j'ai trouvé soit souvent un sens provisoire et toujours sujet à révision.